France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Thierry Poibeau, c'est une arrivée en trombe dans ce studio. On parlait de contenu radio, de podcast, on parle souvent de ces questions-là, y compris d'intelligence artificielle et d'enceintes connectées, on en parlait à l'instant. Tout cela fait écho au sujet de votre livre, puisque vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste du traitement automatique des langues. Et on va parler avec vous de traduction automatique, puisque vous publiez ce livre, Babel 2.0, où va la traduction automatique? C'est aux éditions Odile Jacob. Alors c'est un ouvrage assez pointu, vraiment à mi-chemin entre la question de l'informatique et de la linguistique, puisque c'est votre travail, qui revient aussi sur l'histoire de la traduction automatique, qui est un concept qui va pas du tout de soi, contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui quand on utilise, si on a 15 ans, on a toujours quasiment connu Google Translation, ce qui n'était pas le cas du tout. Vous expliquez qu'en fait, quand on parle de traduction, tout est relatif, la question de savoir pour qui on traduit, qu'est-ce qu'on traduit, et de toute façon, est-ce qu'il y a une bonne traduction dans l'absolu, d'autant qu'on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe du point de vue cognitif chez les humains quand ils traduisent.
Donc ça qui est passionnant dans la traduction, c'est qu'à la fois, c'est une tâche évidente pour tout le monde. On voit bien pourquoi on doit traduire et qu'est-ce que ça veut dire traduire. Et en même temps, on a très peu de connaissances sur... On a beaucoup de mal à évaluer ce qu'est une bonne traduction. Et même pour un traducteur, c'est difficile de déterminer ce qu'est une bonne traduction. Et effectivement, on a très peu de connaissances ou quasiment aucune connaissance sur ce qui se passe dans le cerveau, sur la façon de traduire.
On dit traduttore, traditore en italien, traducteur, le traducteur est nécessairement aussi un traître. Et il y a toute une première partie très intéressante, historique, sur l'histoire finalement de cette discipline, comment est-ce qu'on pourrait le dire, de cet investissement, de cette activité de traduction automatique. Vous le dites, il y a évidemment des acteurs militaires, étatiques, et puis très vite il y a des acteurs commerciaux qui s'en sont emparés. Et en fait, il y a eu un peu trois temps dans cette histoire de la traduction automatique qui fonctionnait relativement mal. Une première qui était plutôt basée sur les dictionnaires, les mots, et sur ce que vous appelez les règles de transfert, c'était quoi l'idée à ce moment-là?
Donc c'est une idée intéressante, c'est à savoir pour traiter la langue, on a besoin d'avoir de connaissances quasiment infinies sur la langue, et donc de le modéliser dans des dictionnaires, dans des grammaires. Et en fait, si je passe déjà à l'étape suivante, ce qui est intéressant depuis ces dernières années, c'est qu'avec des approches statistiques, on voit que c'est plus tellement des règles, et donc ça remet en cause par rapport à ce qu'on disait au début, tout ce qu'on connaît, ce qu'on connaît sur la langue, à savoir que c'est pas obligatoirement des règles, mais avec la façon dont ça fonctionne dans le cerveau est sans doute plus complexe que ça.
En fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au début, on s'est dit, pour traduire un texte automatiquement, il faut le comprendre, en fait, il faut que le système comprenne le sens, et en réalité, assez vite, on s'est rendu compte qu'il ne sert à rien pour que le système ou cette intelligence, alors on ne parle pas encore d'intelligence artificielle, mais que ce système de traduction automatique, il n'a pas grand intérêt à comprendre ce qu'il est en train de traduire. Il faut qu'il réalise tout ça par intertexte, par comparaison. Vous dites donc du coup que c'est le système statistique qui en fait va puiser dans des répertoires bilingues.
Oui, donc on a eu dès les années 90 et encore plus avec le web. Donc d'abord grâce au texte du Parlement canadien qu'ils ont traduit et qui sont très bien traduits parce que c'est des textes juridiques entre le français et l'anglais. Donc on a accès à des textes bilingues et grâce au web depuis 20 ou 30 ans maintenant, on a accès à des corpus, donc des ensembles de textes énormes qui permettent de trouver des équivalences entre les textes. Donc des équivalences de mots, de voir comment un mot donné est traduit dans la langue étrangère. Et pour donner une idée sur l'anglais ou même sur le français, on a maintenant affaire à des textes de plusieurs milliards de mots dans lesquels on peut puiser.
Alors, parce qu'en fait, c'est ce que vous dites. Vous dites que finalement, vous prenez cet exemple très drôle, cette phrase, l'avocat a livré une plaidoirie au vitriol. Vous dites que cette phrase, l'avocat a livré une plaidoirie au vitriol, nous, on sait très immédiatement que l'avocat est dans un contexte juridique, que pour un outil de traduction automatique, c'est un calvaire total, cette phrase. Pourquoi ?
Pour le traitement des langues en général, parce que un mot comme avocat a deux sens. Livré dans cette phrase-là, il y a rien qui est livré. On n'est pas en train de livrer de la nourriture, mais c'est plutôt dire. Et donc, la traduction va avoir besoin, si on traduit directement mot à mot par livré ou par avocat, on a besoin de savoir quel sens d'avocat il faut prendre. Et pareil pour livré, si on choisit une traduction du mot livré en anglais ou dans d'autres langues, il y a des chances pour que la traduction soit inexacte. Alors qu'un humain, ce qui est fascinant, c'est qu'un humain ne se pose même pas la question de savoir pourquoi il y a deux sens dans cette phrase-là.
Et alors justement, vous dites que on était arrivé à un système plutôt correct, avec des limites, avec cette analyse statistique, et qu'on a passé un pas supplémentaire ces dernières années avec ce qu'on appelle le deep learning. Donc c'est encore toujours de l'intelligence artificielle, on en parle souvent, les fameux réseaux neuronaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'un outil comme aujourd'hui, par exemple Google Translate, fonctionne?
Tout ce qu'on peut dire, c'est la différence par rapport à la traduction statistique d'il y a quelques années. Donc, c'est depuis 2016. En fait, avant, donc ça fonctionnait à travers des corpus bilingues, donc des ensembles de textes bilingues, dans lesquels on essayait de rechercher, le système essayait de chercher des traductions de mots ou de groupes de mots. Et après, pour faire la traduction, donc, il devait assembler ces groupes de mots qui ne correspondaient pas obligatoirement. Et donc, on avait des phrases souvent bancales. L'avantage du deep learning, parmi d'autres choses, c'est que c'est d'une part beaucoup plus robuste, et surtout, il y a une représentation de la phrase entière qui est faite. Donc, la traduction se fait au niveau de la phrase, ce qui fait qu'on n'a plus ce
problème d'assemblage. Plus au niveau des mots ou du groupe de mots. Oui. Ouais. Qui a l'air évident, mais qui est en fait quelque chose de fondamental. Pourquoi ? Parce que, en fait, les systèmes d'apprentissage profonds ont une capacité à avoir une capacité de calcul beaucoup plus importante et ont accès à une base de données et arrivent à la gérer beaucoup plus vite.
C'est ça, c'est-à-dire que la puissance de calcul des ordinateurs qui augmente depuis les débuts de l'informatique, font qu'on a atteint actuellement des performances qui permettent effectivement d'avoir une représentation sémantique de la phrase entière, une représentation de la phrase entière, alors que c'était impossible il y a encore quelques années.
Mais alors c'est quoi les limites justement de ces outils de traduction automatique aujourd'hui, par rapport en termes de bons qualitatifs, par rapport aux années 70 par exemple, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on arrive vers entre guillemets de la perfection ou pas du tout ?
Quand on traduit du français vers l'anglais, bon, de toute façon, il y a toujours des erreurs qu'on peut trouver assez facilement, mais on voit que la traduction est assez correcte en général. Mais si on a un texte littéraire, on voit que la qualité littéraire du texte, qui fait qu'un texte est littéraire, donc il a un style, des choses comme ça, est encore très mal rendu. Donc c'est une traduction phrase par phrase, assez littérale. Donc la traduction peut être bonne, enfin souvent entre l'anglais et le français, sur des textes courants, la traduction va être correcte, mais très littérale. Donc pour les textes techniques, ça peut être correct. Pour les textes littéraires, c'est souvent pas très bon, c'est lisible mais pas très bon. Et sur les textes techniques, quand même, pour nuancer, il y a tout un vocabulaire spécifique dès qu'on est dans un domaine professionnel qui va pas être entré dans la base. Donc tout le travail des personnes qui vendent des logiciels de traduction pour des entreprises, en dehors de ce qu'on voit sur le web, c'est d'adapter avec des dictionnaires spécifiques, des systèmes de traduction spécifiques qui sont adaptés à un métier ou un domaine donné.
Parce que ça, c'est ce qu'on découvre dans votre livre, il y a tout un marché de gens qui vendent de la traduction automatique dans des domaines spécifiques. Évidemment, il y a un énorme appétit des grands acteurs du numérique pour ces outils de traduction automatique. Moi, j'ai découvert en lisant votre livre, ce que je ne savais pas, que Google, mais on peut s'en douter, et Facebook et d'autres achètent régulièrement des startups qui se spécialisent sur ces questions. On en est où et quels sont les horizons ? Parce qu'on a parlé de l'enceinte connectée qui est très présente aujourd'hui aux États-Unis, qui peut l'être même ailleurs. On parle d'outils qui sont essentiellement aujourd'hui en anglais ou en chinois, même si c'est un autre marché avec d'autres types d'acteurs. La question de tous ces objets connectés, à quel point elle est reliée à la question de la traduction automatique aujourd'hui ?
Ce qui fonctionne relativement bien, c'est la traduction de texte écrit, ce qu'on connaît sur le web. Le rêve pour beaucoup d'acteurs télécom, c'est la traduction simultanée
immédiate.
En parole. Donc oui. si j'étais dans une émission de radio chinoise, je parlerais en français et bon, là, c'est un peu du rêve, mais la traduction se fera en direct et on aurait un rendu en chinois ou dans une autre langue directement. Les enjeux au-delà de ça, c'est par rapport à la diversité des langues, c'est qu'on a des systèmes qui fonctionnent bien sur les langues proches de l'anglais, fonctionnent bien aussi sur l'arabe et le chinois maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'efforts de recherche qui ont été faits. Mais quand on prend en compte le fait qu'il y a 6000 langues dans le monde, évidemment, il y a beaucoup de langues pour lesquelles il n'y a pas de système, ou parmi les 100 langues qui sont couvertes par Google Traduction à l'heure actuelle, on peut dire que pour une majorité d'entre elles, la traduction n'est pas très bonne. Donc il y a encore un gros travail à faire sur les langues qui sont moins répandues, moins courantes que le français, l'anglais et d'autres langues comme ça.
Mais justement, dans un contexte très idiot comme celui de l'écoute de la radio, par exemple sur une enceinte connectée, est-ce qu'on pourrait imaginer que des podcasts qui aujourd'hui sont en français soient audibles en chinois à quel horizon, 5-10 ans ?
C'est très difficile de répondre. Je pense qu'on en est encore pas tout à fait là. Donc il y a deux étapes parce que, qui sont assez indépendantes pour l'instant, qui sont d'une part la transcription qui va vers l'écrit. Mm-hmm. Donc on passe de la parole à du texte écrit. Et ensuite, on traduit le texte écrit. Et évidemment, vu qu'il y a deux étapes, les erreurs se cumulent. Et je pense qu'on est... Donc il y a des gros progrès qui sont faits et j'aurais beaucoup de mal à dire à quel horizon ça sera vraiment fonctionnel. Mais sûr, entre français et l'anglais, on peut peut-être se dire que dans 5 ou 10 ans, il y a déjà des choses qui existent. Dans 5 ou 10 ans, peut-être que ça marchera relativement correctement.
Vous le rappelez au début, il y a eu une utopie à un moment donné pour justement essayer de s'aliéner cette question de la diversité des langues, de leur contexte, de la manière dont elles procèdent. L'idée d'avoir une espèce de langue universelle qui serait celle par laquelle on passe tous dans la traduction, c'est complètement mort cet idéal-là.
En fait, il y a eu un renouveau de cette idée à travers récemment et j'avais pas compris ce qui se passait quand c'est sorti. Et en fait, c'est qu'à travers le deep learning, donc les outils actuels, il y a une représentation qui est similaire entre différentes langues. Donc les différentes langues sont projetées sur un même espace sémantique, donc c'est un peu technique. Mais cet espace, vu qu'on peut projeter différentes langues dans un même espace, on a une espèce de format multilingue ou unilingue qui apparaît. Et ce qui est un peu fascinant pour un linguiste qui est passé vers la linguistique informatique, c'est que les systèmes qui avant étaient vraiment faits pour le français, sur le français, qui fonctionnaient bien sur le français, maintenant fonctionnent mieux avec des systèmes multilingues, ce qui paraît un non-sens, c'est-à-dire quand on met de l'anglais et d'autres langues dans le modèle sémantique, ça fonctionne mieux que pour analyser que du français. C'est un peu étonnant.
Bon, écoutez, le futur nous le dira. Merci beaucoup. Babel 2.0, où va la traduction automatique? On ne sait pas où elle va, mais en tout cas, on sait qu'elle va bien. C'est votre livre, Thierry Poibot. Il est paru aux éditions Odile Jacob.
Merci à vous.